parle beaucoup de sagesse dans l'écriture en ce moment. Hein. La sagesse. Je ne sais pas si vous avez repéré le passage de l'office de Matine dans la lecture sur le livre des Proverbes. À propos de la sagesse, c'est le trésor des trésors. Tu le trouves où ? Ses voies sont des voies délicieuses et ses sentiers sont des sentiers pacifiques, des sentiers paisibles. Ce sont des sentiers paisibles. L'arbre de vie, c'est elle pour ceux qui la saisissent. L'arbre de vie, c'est elle pour ceux qui la saisissent. Et bienheureux ceux qui la tiennent. L'arbre de vie, c'est elle, c'est la sagesse pour ceux qui la saisissent. Et pourtant, Dieu avait dit, mettons, c'est pourtant Dieu avait dit, plaçons les chérubins avec un glaive pour que l'homme ne touche pas, ne tende pas la main vers l'arbre de vie. Ça veut dire que avec la main gauche on peut, mais pas avec la main droite. L'arbre de vie, quelquefois on dit c'est l'Eucharistie, quelquefois on dit c'est l'Eucharistie. C'est la sagesse de la croix, bon, c'est l'Eucharistie. L'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est les sources de la sagesse créatrice. Les sources de la paternité, de la fécondité créatrice de Dieu dans le temps et en même temps dans l'éternité. C'est les deux ensemble. Oui. Quand on rentre dans le Saint des Saints, dans le lieu et l'instant de l'amour paternel vivant, créateur et fécond de Dieu, on rentre dans, on touche à l'arbre de vie. C'est pour ça que la transgression du suprême, la transgression moderne, la transgression ultime de l'humanité touche à ce fait qu'on rentre avec la main droite dans l'arbre de vie. On veut rentrer, y mettre notre œuvre humaine. Lorsque vous faites un shikutz, c'est-à-dire une abomination, lorsque vous faites une shikutz qui produit et qui désole et le ciel et la terre, un méchaume, eh ben, vous rentrez dans le Saint des Saints, dans l'instant et dans le lieu qui est réservé à Dieu seul. Comme par exemple quand Titus, qui était représenté l'humanité toute entière, c'était l'empereur du monde entier, hein, est rentré dans le temple de Jérusalem, il a écarté le Kadosh HaKadesh, il est rentré dedans, il a fait œuvre humaine dans le Saint des Saints, dans le lieu réservé à Dieu seul. Il a fait un shikutz. Il a fait une abomination, parce qu'il est rentré dans le Saint des Saints, le lieu et dans le moment qui était réservé à Dieu seul. Alors ça s'appelle un shikutz, une abomination. Non, quand c'est réservé à Dieu seul, c'est réservé à Dieu seul. Juste Jésus a le droit d'y rentrer, juste Dieu seul a le droit d'y rentrer une fois par an, dans le Saint des Saints, c'est pas... Alors, mais la main de l'homme ne doit pas être touchée. Alors si on se revêt des huit vêtements du Christ, et si on a le nom d'Élohim sur le front, Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Saint-Esprit, un en trois, trois en un, voilà ce qui est marqué sur le phylactère du grand prêtre une fois par an. C'est le nom de Dieu à 42 lettres. Alors à ce moment-là, on pouvait rentrer une fois par an, c'est ce qu'a fait le Père de Jean-Baptiste une fois. Et rentrer dans le lieu de la création du monde nouveau. Et c'est pour ça, c'était à l'heure où se faisait le mariage de Marie et Joseph. Il est rentré, c'est le père de Zacharie qui est rentré, l'ange Gabriel est rentré. Et c'est de là qu'est né, qui est devenu la source dans l'arbre de vie. Et la sagesse communiquée, le germe déposé dans notre humanité, ça a été donc l'origine de la conception de Jean-Baptiste. À partir du moment où il y a eu l'unité spensale de Marie et Joseph, quelque chose de nouveau est rentré dans le sein des saints de la nature humaine, réservé à Dieu seul, et Jean le baptiseur a été conçu. Extraordinaire fécondité du mariage de Marie et Joseph. Le premier enfance, finalement, la première fécondité, ça a été Jean-Baptiste. Ça a été Jésus, ça a été nous. La sagesse, c'est elle, c'est l'arbre de vie. Vous voyez bien qu'il y a une relation évidente entre l'Eucharistie, la création originelle de notre corps d'origine, le Saint des Saints, la fameuse Memoria Dei, n'est-ce pas, la fameuse Memoria Dei. Et alors là, c'est là. Il y a la saveur et il y a les sources de la paix. C'est elle et c'est l'arbre de vie. Lorsqu'on se nourrit de l'arbre de vie, dans les origines même de l'assomption de la nature humaine dans le Verbe de Dieu, dans le sein de Marie, on a les origines de l'arbre de vie. Jésus soupire du plus profond de lui-même. Du plus profond de lui-même. Il dit, cette génération n'aura aucun signe. Et puis alors, du coup, il s'arrache d'eux et il passe sur l'autre rive, traverse. Il les quitte, il traverse et il va sur l'autre rive. Il n'y aura aucun autre signe que ce fait que Jésus passe tous les temps et tous les lieux et passe sur le rivage solide de la résurrection. Après nous avoir quittés par l'arrachement de l'union hypostatique déchirée. Et ce passage, cet instant, ce signe-là, il est donné dans l'Eucharistie. C'est ce passage de Jésus dans tous les temps de l'histoire, où sa mort le fait passer dans tous les temps, le fait aboutir dans les rivages solides de la résurrection. Il n'y aura pas d'autre signe que le signe de l'arbre de vie eucharistique. Et tel est la production du Père dans l'union hypostatique de Jésus. C'est l'arbre de vie. Dans l'union hypostatique de Jésus, dans la nature humaine de Jésus, dans l'humanité de Jésus, l'humanité qu'il assume, il n'y aura pas d'autre signe. C'est ce qu'il y a de plus profond dans les grandes profondeurs du Christ et ce qu'il laisse comme trésor au monde nouveau de l'humanité relevée. À un autre endroit dans l'évangile, on entendait ça. Il dit, il ne sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas. C'est la même chose. Ça veut dire la même chose. Parce que Jonas, c'est quoi le signe de Jonas? C'est que le fils, le grand prophète, eh bien, il est jeté dans les flots et puis il est rejeté par le poisson sur le rivage solide de la résurrection. Donc c'est bien le signe, c'est bien la même chose. Pourquoi? Parce que les eaux qu'on traverse, c'est quoi? Les eaux qu'on traverse, ça représente le mystère du temps. L'eau, vous savez bien que l'eau, vous ne pouvez pas saisir l'eau, parce que l'eau, quand vous la mettez, elle coule. On ne peut pas saisir l'eau, elle coule toujours. On ne peut pas saisir l'eau. C'est le temps qui est exprimé par l'eau. Et donc quand on passe sur l'autre rive, on arrive sur le rivage solide de la résurrection. Voilà, ça, on tient pour toujours le corps spirituel venu d'en haut. Ça, c'est solide. Voilà. Passer de la rive du corps originel à la rive du corps spirituel venu d'en haut et traverser tous les temps dans le signe du Fils de l'homme, dans la Memoria Dei, c'est-à-dire la présence réelle, Memoria, présence réelle, Zikaron. En tzikaroni, dans ma mémoire, tzikaron en hébreu, ça veut dire en même temps mémoire de Dieu, et ça veut dire en même temps sacrement. Quand on traduit le mot tzikaron, c'est en même temps mémorial, et puis en même temps, dans mémorial, sacrement, et puis en même temps mémoire, c'est en même temps sacrement, et puis c'est en même temps présence réelle, signe, et puis mémorial, mémoire, tzikaron. Faites ceci dans ma mémoire. Ma présence réelle. Ça nous est laissé. Jésus nous donne tout. La sagesse créatrice a créé l'homme, la femme, a créé l'humanité parfaite. à l'origine, quand Adam et Ève ont été créés, ils ont été créés dans un état de perfection. Comme dit saint Thomas d'Aquin, ça n'est arrivé que 4 fois dans l'histoire de l'humanité, et ça n'arrivera que 4 fois. La créateur de Dieu sur la nature humaine aboutit à un état de nature humaine parfaite et accomplie que pour Adam, Ève, Jésus et Marie. C'est vrai, Jésus a été créé dans un état d'accomplissement et de perfection. Pourquoi ? Parce que la charité, l'amour qui est en lui dès le premier instant, est déjà à l'état de perfection et d'accomplissement. La charité humaine et surnaturelle dans le Christ n'a jamais augmenté. Il était déjà au sommet. Et la vie spirituelle, la vie humaine, la liberté et la vie intérieure et la vie de grâce surnaturelle en Marie était déjà dans un état de perfection, plénitude de grâce reçue. C'est ce que dit l'ange Gabriel, je vous salue Marie, plénitude de grâce. Et sa charité, elle, a augmenté petit à petit. C'est ça la différence. Une complémentarité, bien sûr. Alors, il y a eu Abel. Caïn et Abel. Le problème, c'est pour Caïn, c'est que Caïn a été créé sous l'influence du péché originel, sous l'influence de Lilith. Alors, comme il y a eu une conception qui s'est faite, qui s'est réalisée sous l'influence de Lilith, il y a eu quelque chose dans Caïn qui avait qu'il n'était pas sous l'influence de la paix, qu'il n'était pas sous l'influence de la promesse du Rédempteur, qu'il n'était pas sous l'influence de Marie. Tandis que Abel, il y a une tradition qui dit que Adam et Ève sont entrés dans la pénitence, dans une unité sponsale virginale pendant 100 ans. Puis, du coup, ils se sont rejoints sur la terre de la grâce et Abel a été conçu. C'est une petite tradition qui est très jolie. Et quand il a été conçu de manière gemellaire, c'est-à-dire qu'il a été conçu, ils étaient deux, il y avait Abel et sa jumelle. C'était des jumeaux. Elle était très belle, la jumelle d'Abel. Très belle, intérieurement, magnifique. Magnifique, Abel aussi, une pureté extraordinaire. Parce qu'ils étaient issus. Et Moïse indique dans son enseignement, à propos de ce passage, que s'il n'y avait pas eu les conséquences du péché originel, la création de l'homme se serait toujours faite deux par deux. Vous voyez pourquoi Jésus envoyait toujours ses disciples deux par deux. C'est pas normal que quelqu'un sous l'influence de Lilith soit conçu et puis seul. Pendant 9 mois, vous êtes là comme ça, dans le ventre maternel, dans l'ipsolipsisme transcendantal. C'est horrible. Tandis que quand vous êtes dans la mémoire, la memoria dei de l'un et de l'autre, continuellement pendant 9 mois, vous comprenez bien qu'il y a quelque chose qui permet de continuer à grandir ensuite et toujours, même après la naissance, avec quelque chose de très 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 effervescent dans la présence de la sagesse créatrice. Pourquoi ? Parce que vous avez assisté à la création de l'autre. Vous avez un miroir de la sagesse créatrice de Dieu. Ça, la condition gemellaire est une condition extraordinaire parce qu'elle nous garde toujours présente cette innocence divine originelle, partagée. Et du coup, on est dans une plus grande facilité pour la communion des personnes dans l'amour de similitude, jusque dans le corps originel. Ce n'était pas une union de cœur, c'est une union de sagesse. L'innocence divine partagée, c'est extraordinaire. Mais c'est vrai. Alors Abel avait donc ce sens très très fort que quand quand il s'offrait à Dieu, quand il faisait une offrande à Dieu, c'était l'humanité tout entière qu'il offrait à Dieu. C'est pour ça que l'offrande d'Abel était agréée par Dieu. Et Dieu regardait l'offrande d'Abel, parce que Caïn, lui, il a, comme dit le texte, louché sur Abel pendant. Il louchait sur son frère. Il avait un œil pour Dieu, puis un œil pour son frère. Et pourquoi est-ce qu'on a deux yeux? Voilà, ça rejoint un petit peu l'évangile d'hier. Et la droite c'est la gauche, voilà. Mais tandis que si on est dans la sagesse, les deux cieux, voyez, on est le jumeau de notre Seigneur Jésus-Christ. On est né, on est conçu dans le signe du Fils de l'homme. On est repris dans le Zikaron, dans le signe, dans les très grandes profondeurs du soupir de la sagesse créatrice de Dieu. Et qui est inscrite dans l'en deçà de l'union hypostatique du Messie. Et si on se replonge sa gratitude d'être rien et à partir de rien d'être tout dans le oui originel, actuel, si on le fait avec, on peut le faire de manière gémellaire, par le signe et par l'union, le don que le Père nous a fait dans l'Immaculée Conception. Mais aussi le don qu'il nous a fait dans l'union hypostatique de Jésus. Jésus. C'est pour ça que dans le Zikaron, c'est-à-dire dans la Memoria Dei, Jésus et Marie ont avec nous une relation gémellaire. C'est très beau ça. Ça va. Surnaturellement, on est jumeaux de Jésus. Et de Marie. C'est pour ça que tout naturellement, vous verrez que quand nous verrons, tout le monde verra que quand le Saint des Saints, l'amour paternel créateur de Dieu va revenir tout lumineusement à la surface de tout notre réveil dans la prise de Dieu universel, pendant qu'il durera. C'est cette fameuse demi-heure, il se fera un silence d'environ une demi-heure. Et on aura toute cette proximité extraordinaire avec notre petite sœur jumelle, l'Immaculée Conception, avec notre petite sœur. Marie, c'est notre petite sœur, l'Immaculée Conception. Et de savoir qu'on va pouvoir, dès maintenant, on le sait, qu'on revit. Dans notre sagesse créatrice, dans notre sagesse profonde, dans notre oui pacifique, universel et profond, et la sagesse jubile dans l'arbre de vie, parce que elle est dans la présence originelle du monde entier, directement, sans aucun intermédiaire. Et en même temps, il y a un amour, il y a une communion, il y a une compénétration de notre oui originel avec le oui originel de l'Immaculée Conception. Et si on est tout à fait, effectivement, dans cette perfection nouvelle, alors on est en gémellité, si je puis dire, oui, tout à fait, avec le oui originel de l'union hypostatique de Jésus, 9 mois avant Noël. Et si on porte ça, effectivement, on est tout proche de ce oui qui fait de nous le roi fraternel de l'univers. Dieu, le Père, nous crée. Il nous fait confiance. Et nous offrons le monde entier. Quand nous offrons le monde entier, nous nous offrons nous-mêmes. Si bien quand Abel a fait l'offrande, comme le dit Moïse, le Messie était en lui, offrait déjà le monde entier. En ne regardant que Dieu, en s'offrant lui-même à travers l'offrande du monde. Tandis que Caïn, lui, il fait des divisions. Il ne s'offre pas lui-même, il n'offre pas le monde entier avec lui. Il n'offre pas le Messie, il n'accueille pas en lui l'onction messianique, pacifique, universel de tous les temps et tous les lieux. Il offre un sacrifice, il offre une bête, et puis il regarde Si bien quand on dit la messe, quand on célèbre la messe, on invoque toujours Abel. Pourquoi on invoque Abel? Parce que Abel, c'est la première fois que Jésus a offert le monde à travers la nature humaine, la première fois que le Messie a offert le monde entier, tous les temps et tous les lieux, dans l'offrande de lui-même, dans la chair et le sang. La première fois qu'il l'a fait, il l'a fait à travers Abel. Et puisque Abel l'a fait à travers lui, ça a mérité à l'humanité le mystère de l'incarnation, pour que le Christ lui-même le fasse hypostatiquement. Et donc, on est présent au sacrifice d'Abel. Vous n'aurez pas d'autre signe. L'humanité n'aura pas d'autre signe que ce signe des profondeurs. Elle est originée, si on regarde bien l'écriture, elle est originée de la sagesse, et la sagesse est avant que les mondes, que les choses ne commencent à exister. Donc la sagesse de ce signe, la sagesse créatrice, la sagesse originelle, c'est la sagesse de la croix. C'est la sagesse du signe, du zigaron. C'est la sagesse de l'offrande, de toute chose, de soi-même. Voilà. C'est un petit peu pareil pour Abraham. On évoque Abraham dans la messe aussi. Abel, tout de suite après Abraham. Pourquoi Abraham? Il a offert toute sa vie. Parce que Isaac, c'était toute sa vie. Son fils, c'était toute sa vie. Et cette fois-ci, c'est la paternité incréée de Dieu qui, à travers Abraham, a offert toute sa vie intérieure dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Et il l'a vu faire par un homme, à travers la plénitude messianique qui était dans la foi d'Abraham, et comme il l'a vu faire par un être humain, le Père n'a pas pu faire autrement. Abraham nous a mérité le mystère, le don de l'incarnation. Et de l'offrande hypostatique, déchirée, notre Seigneur Jésus-Christ, la sagesse de la croix, c'est la sagesse de Dieu, c'est la volonté du Père. Et puisque l'homme a été capable de le faire, le Père s'y était déjà engagé. Dès lors qu'il y a eu l'acquiescement, le oui d'Abraham. Alors le oui d'Abraham, c'est l'engagement de la première personne de la Très Sainte Trinité dans le sacrifice de Jésus. Le oui d'Abel, c'est l'engagement du Messie, du Verbe, dans le sacrifice eucharistique de tous les temps, celui qui est donné. Et du coup, nous nous offrons nous-mêmes totalement, en offrant le monde entier et en offrant Jésus. Et en nous offrant nous-mêmes, c'est Jésus qui s'offre, c'est le Père qui offre tout au monde du Saint-Esprit. Parce que quand c'est Jésus qui s'offre à travers nous dans l'Eucharistie, c'est le Verbe et toute vie et toute création dans l'un indivisible, l'indivisité lumineuse et vivante de l'un, la sagesse de la croix qui s'offre à Dieu le Père comme une épousée. Mais quand c'est le Père qui s'engage dans cette donation, alors à ce moment-là, effectivement, il offre et s'offre aussi. Et c'est pour. Il l'offre à qui? Il l'offre au Saint-Esprit. Il l'offre pour le Saint-Esprit. Pour l'amour. Alors, il n'y aura pas d'autre signe que ce signe-là. Voilà, c'est pour à cause de ça qu'il y a Abel et puis Abraham dans la messe. Mais derrière Abel et Abraham dans la messe, il y a la sagesse créatrice de Dieu. L'onction messianique. Ah oui, la sagesse, c'est elle. Elle est surabondante. Elle surabonde le monde entier, elle est pacifique. L'arbre de vie, c'est elle. C'est pour ça que quand Jésus, il a dicté cette prière pour répondre à la transgression suprême, il a dit « Pitié, Seigneur ». Pour ceux qui te fuient, donne-leur le goût de l'arbre de vie de l'Eucharistie. C'est encore la messe de minuit.